Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Une dizaine de morts, des maisons détruites, des routes coupées et des habitations inondées dans plusieurs communes de Kinshasa. C'est le bilan encore provisoire de la pluie diluvienne qui a arrosé hier la capitale congolaise. Nous faisons le point dans un instant. C'est aujourd'hui que sera béatifié le laïc congolais Floribert Bwanatshui, tué en 2007 à Goma pour avoir résisté à la corruption. Plusieurs personnes, de Goma notamment, se sont rendues à Rome pour participer à la messe qui aura lieu vers 17h30. Et puis, Madame Bintou Keïta est l'invitée de ce journal. La chef de la MONUSCO vient de clôturer son séjour à Goma où elle a rencontré plusieurs acteurs dont la coordination de l'AFC M23 et le commandement de mission de la SADC. Madame, Messieurs, bonjour. Des morts, des maisons détruites, des routes coupées et des habitations inondées dans plusieurs communes de Kinshasa. C'est le bilan encore provisoire de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la matinée d'hier samedi sur la capitale congolaise. Si la circulation a été perturbée dans certains coins dans la matinée, dans d'autres, plusieurs familles ont passé nuit à la belle étoile, leurs habitations ayant été complètement inondées. Le point avec vous, Plotin Yambenga.
On a enregistré 18 morts sur les avenues Kombo et Madimba, précisément au quartier Moussei, non loin du Kanchachi. Ces morts sont causées par les écroulements de murs après la pluie diluvienne tombée la nuit de vendredi à samedi. Nous devons tous être unis pour combattre les constructions anarchiques, a dit samedi à la CP Fulgence Bolonkomo, bourgmestre de la commune d'Engaliema. Les dégâts causés par cette pluie sont encore visibles dans plusieurs communes de la capitale. À Mbanza Lemba, dans la commune de Lemba, un couple est décédé à la suite de l'écroulement d'un mur de leur habitation. L'information est confirmée par les bourgmestres de la commune, Jean-Serge Poba. À Kalamu, plusieurs infrastructures, notamment des ponts, ont été détruites, perturbant ainsi la circulation, d'après son bourgmestre Charlie Louboya. La commune de Kissens n'est pas en reste. 4 maisons se sont écroulées. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, explique son bourgmestre Godet actuel. À Limété, des cas d'inondation sont rapportés au quartier Ndanou, alors qu'à Mongafula, plusieurs têtes d'érosion ont progressé à la suite de cette pluie, occasionnant la destruction de quelques habitations, comme dans la commune voisine d'Ingaliema, où l'avenue Okito, dont les travaux de réhabilitation étaient en cours, s'est coupée en deux.
Justement, au sujet des pluies qui s'abattent ces derniers temps sur Kinshasa, alors qu'on est censé être déjà en saison sèche, professeur Kabasele Yengayenga, docteur en physique spatiale du climat et responsable de l'Observatoire spatial des ressources naturelles et du climat, invite le gouvernement congolais à adopter dans sa gestion au quotidien une politique qui prend en considération les géorisques à cause du dérèglement climatique. Il explique que les effets de ce dérèglement vont se faire sentir de plus en plus. Ce scientifique conseille par ailleurs au gouvernement congolais de penser déjà à disponibiliser de la logistique pour faire face aux diverses conséquences de dérèglement, tant sur le plan médical qu'humanitaire. Pendant ce temps, dans la province de l'Équateur, le bilan n'est fait que s'alourdir après le naufrage survenu mercredi 11 juin dernier dans les eaux du lac Ntomba, à proximité de la cité de Bikoro. La coordination provinciale du panel des experts de la société civile de l'Équateur affirme que depuis vendredi soir, 26 nouveaux corps ont été repêchés, portant le nombre provisoire de victimes à 80 morts, sans compter les nombreux disparus toujours recherchés. Cette structure citoyenne dit dénoncer le silence inacceptable du gouvernement congolais, qui jusqu'à présent n'a émis aucun communiqué officiel pour présenter ne serait-ce que des condoléances aux familles endeuillées. On écoute à ce sujet Dieu merci Akula Mboyo, secrétaire rapporteur du panel des experts de la société civile de l'Équateur. Il est joint par Alain Rongmouchinj.
Nous dénonçons avec force le silence inacceptable du gouvernement central qui jusqu'à présent n'a émis aucun communiqué officiel pour présenter ne serait-ce que des condoléances aux familles endeuillées. Le ministère des Transports, pourtant directement concerné, brille par son inaction face aux défis récurrents du secteur fluvial. À quoi sert-il si aucune mesure concrète n'est envisagée pour prévenir ces tragédies? Sur le plan local, le gouvernement provincial tente de rembourser une partie des frais engagés par certaines familles pour l'achat des cercueils. Malheureusement, cette opération est faite avec une injustice criante, suscitant ainsi colère et indignation de la population qui se sent abandonnée. Les corps déjà pourris sont enterrés le long du lac dans des conditions inhumaines. Le temps n'est plus au discours, mais à des actions urgentes, transparentes et humaines.
Restons dans le Grand Équateur. Il n'y a pas d'électricité dans la ville de Gbadolite, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. La situation dure depuis près de 8 mois, d'après les affirmations de la société civile du Nord-Ubangi. Ceci fait suite à l'arrêt de la centrale hydroélectrique de Mobimbongo, due à l'inondation du barrage le 23 octobre 2024. Conséquence, plusieurs activités socio-économiques et professionnelles ne tournent plus comme il faut dans la ville. Askenzigbiatayoro nous fait le point.
C'est à l'hôpital général de référence de la ville que les conséquences du manque d'électricité se font sentir. Selon les témoignages recueillis sur place, la morgue de cet hôpital ne sait plus conserver des corps. Plusieurs familles sont obligées d'amener directement au cimetière les corps sans vie de leurs membres. Les ajustés, les soudeurs, les tenanciers des bars et restaurants peinent et éprouvent assez de difficultés malgré les recours aux groupes électrogènes. La vie est devenue intenable à Gbadolite, comme explique Taïma Taylor, président de la société civile du Nord-Ubangi.
La coupure de courant nous a créé beaucoup de problèmes. Les gens qui se démenaient avec l'électricité, pour le moment, tout est bloqué. Je pourrais encore ajouter qu'il y a eu ce qu'on appelle l'insécurité maintenant dans la ville de Gbadolite. Et à cause de l'obscurité, c'est une situation grave pour la ville. Nous savons pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Donc, tout est devenu trop cher.
Contacter le directeur de la SNEL Gbadolite, Maurice Ewango, dit que la direction générale de sa société avait dépêché de Kinshasa et de Inga une équipe pour des travaux de rétablissement de la machine endommagée par l'inondation au barrage de Mobimbongo. Mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas abouti au résultat escompté.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, ce dimanche 15 juin sera béatifié le laïc congolais Floribert Bwanatshui, tué à l'âge de 26 ans en 2007 à Goma pour avoir résisté à la corruption. La messe aura lieu dans la basilique Saint-Paul hors les murs vers 17h30. Pour la famille biologique et ceux qui l'ont connu, le futur bienheureux laisse le modèle d'une personne pieuse, intègre et de lutte contre la corruption et contre les antivaleurs. D'autres détails dans ce reportage de Blaise Maka rendu par Ben Chokuta.
Après la reconnaissance de son martyr par le pape François le 25 novembre 2024, le jeune laïc congolais, désigné comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale, sera béatifié à Rome ce dimanche en la solennité de la Sainte Trinité. La nouvelle de cette béatification a été reçue avec une grande joie par l'Église du Congo et par la communauté des Saint-Égidio dont il était membre. La République démocratique du Congo, son pays d'origine, sera doublement représentée par des évêques, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs, ainsi que par une délégation du gouvernement. Parmi les prélats congolais, sont annoncés le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et Mgr Willy Ngumbi, évêque de Goma, diocèse d'origine de Floribert Bwanatshui. La communauté congolaise de Rome se prépare également à ce grand événement. Floribert Bwanatshui, Binko City, a été enlevé le 7 juillet 2007 avant que son corps sans vie ne soit retrouvé 2 jours plus tard devant l'Université libre de Pays de Grand Lac à Goma. C'est son refus de céder à la corruption qui lui a valu cette atrocité. Dans l'exécution de sa mission, il est confronté au problème moral d'autoriser l'entrée en RDC des denrées alimentaires venant du Rwanda voisin et qui n'avaient pas obtenu les autorisations compétentes pour leur commercialisation et leur consommation. Selon des témoignages, Bwanatshui a préféré mourir en refusant de faire passer de la nourriture qui aurait pu empoisonner un grand nombre de personnes.
Et notez que la béatification de Floribert Bwanatshui représente un moment d'espoir et un grand soulagement pour tous les chrétiens catholiques, rappelant qu'il ne faut jamais perdre espoir, même dans les moments les plus difficiles. À Goma, plusieurs personnes se sont mobilisées pour se rendre à Rome et participer à cette messe de béatification. Parmi elles, Madame Nathalie Bouyangane, fidèle de la paroisse cathédrale Saint-Joseph et habituée du monastère Notre-Dame-du-Lac au lycée Amani. Arrivée à Rome jeudi, elle a fait le voyage depuis Goma avec 2 autres chrétiens. Tiens, afin d'assister à ce grand rendez-vous, Madame Bouyangane espère recevoir de nombreuses grâces de cette messe de béatification. Son témoignage est recueilli par Rosalie Zawadi.
J'ai la joie de participer à la béatification de Floribert parce que c'est une histoire que nous, on n'a jamais vécue chez nous. Et donc, avec toutes les grâces qu'on reçoit dans des messes grandioses comme ça, je n'ai pas voulu rater pour moi-même palper, vivre ce moment en direct, parce que ce sont des choses qu'on a toujours vues dans des films, des personnes qu'on n'a pas connues ou avec lesquelles on n'a pas vécu. Mais Bwanatshui, qui a été un garçon de Goma, un grand frère pour certains, un fils pour d'autres, un petit-fils, il a été de notre, et donc c'est pour ça qu'on a été motivés à venir participer à cette messe pour rendre grâce à Dieu, pour prier désormais par son intercession pour qu'il puisse auprès du Père nous obtenir la paix dans les grands lacs, la paix dans notre pays, la paix surtout à Goma.
Une délégation congolaise assistera à cette messe de béatification à Rome, partie de Goma et de Kinshasa. Elle est également renforcée par d'autres chrétiens venus de plusieurs pays d'Europe. Tous sont réunis pour rendre grâce à Dieu pour ce quatrième bienheureux Congolais. L'actualité, c'est aussi la clôture hier à Lubumbashi par la première ministre de la 20e édition de la DRC Mining Week. Judith Soumino a mis deux priorités majeures qui structurent l'action de son gouvernement. Il s'agit de l'accès fiable à l'énergie pour favoriser l'exploitation industrielle durable et l'opérationnalisation du corridor de l'Obito, notamment pour faciliter le transport des minerais stratégiques. Les propos de la première ministre Judith Soumino sont sélectionnés par Paulin Munanga.
La première concerne la problématique de l'énergie. Et je pense que c'est une préoccupation de beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Comme vous le savez, il ne peut y avoir d'exploitation minière industrielle durable sans un accès fiable à l'énergie. Dans ce contexte, nous redoublons d'efforts pour renforcer nos capacités hydroélectriques, encourager l'investissement privé dans un mix énergétique diversifié et promouvoir les interconnexions régionales. Il ne fait aucun doute que le développement minier ne saurait se faire en marge de la transition énergétique. Ces deux dimensions sont indissociables et interdépendantes. Leur progression conjointe est essentielle tant pour répondre aux besoins de la croissance économique de notre pays que pour soutenir la dynamique mondiale de décarbonisation et de la transition vers les énergies renouvelables et propres pour lutter contre le changement climatique. Quant à la seconde priorité, après la question énergétique, une des pistes à la question logistique est incarnée par des projets pour une meilleure connectivité de la République démocratique du Congo à travers notamment l'opérationnalisation du corridor de l'Obito.
Actualité internationale.
L'armée israélienne dit avoir mené une nouvelle série de frappes ce dimanche sur l'Iran contre des cibles liées à son projet d'armes nucléaires dans le ministère de la Défense. Ce, au troisième jour de la confrontation militaire entre les deux pays. 8 personnes sont mortes et plus de 130 ont été blessées à la suite des tirs de missiles iraniens ce dimanche matin sur le centre d'Israël et la région ouest de Jérusalem.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, arrivée jeudi dernier à Goma. Madame Bintou Keïta a clôturé hier samedi son séjour dans la ville. Sa délégation a rencontré plusieurs acteurs, dont la coordination de l'FCM23 et le commandement de mission de la SADC à Midi-RC. Mais que retenir de cette mission? Madame Bintou Keïta est avec Bernard Nyangi.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Quel était l'objet de votre visite à Goma au moment où cette partie de la province connaît toujours une situation particulière?
Merci beaucoup. Donc, le premier objectif que j'avais, c'était de rencontrer le personnel militaire et civil de la mission parce que je n'ai pas été en contact physique avec ce personnel depuis plusieurs mois, en fait depuis début janvier. Et c'était pour moi un moment très important de pouvoir finalement rencontrer tout le personnel. Deuxièmement, c'était aussi de pouvoir faire l'évaluation du fait du départ de nos bases de 1359 éléments des FRDC et de la PNC grâce à la facilitation du CICR, avec aussi l'assentiment du gouvernement congolais et aussi rencontrer le leadership de AFC M23 pour différents niveaux de discussion. Donc, et de la MONUSCO en travaillant avec le CICR d'avoir fait cette opération qui a transporté tout le monde, ces 1359 de Goma à Kinshasa. Donc de voir ceux qui sont encore dans nos bases, des FRDC, de la PNC, mais aussi le personnel civil qui reste toujours protégé dans nos bases. Le troisième aspect de cet élément de rencontre, c'est que vous savez que la SAMI RDC est en train de partir et nous, en tant que MONUSCO, nous aidons au départ de cette mission puisque nous avons une résolution du Conseil de sécurité qui s'appelle la résolution 2746 du mois d'août 2024 qui nous demande d'aider lorsque nous sommes demandés la SAMI RDC. Donc j'ai rencontré le commandant de la force de SAMI RDC et c'était aussi une façon pour moi de pouvoir dire au revoir au commandant de la force SAMI RDC. Ensuite, il est très clair que j'ai aussi dans mes objectifs de rencontrer, d'engager le leadership de AFC M23. Et dans cet engagement, il y avait plusieurs aspects. Le premier, c'était de voir comment travailler ensemble, puisque nous avons déjà commencé depuis plusieurs mois à regarder et notamment comment faire en sorte que les 1359 éléments de FRDC-PNC sortent de nos bases en toute sécurité jusqu'à Kinshasa, mais aussi de voir comment dans le futur très proche, nous pouvons mettre à profit une façon de travailler, de continuer les engagements ensemble pour que la population puisse profiter de la présence continue de la mission à Goma et aussi de voir comment dans les défis que nous voyons en tant que mission depuis la fin de janvier, faire en sorte que les questions, les défis du quotidien finalement pour notre personnel en termes d'accès, en termes de mobilité, en termes de chaîne logistique, en termes de rotation de nos troupes, également en termes de pouvoir accompagner au mieux les efforts au profit de la population comme on a l'habitude de le faire, que tout ça puisse être mis sur la table et donc tous ces éléments ont été mis sur la table pour qu'on puisse le discuter dans les jours qui viennent pour pouvoir trouver des solutions à tout cela.
À Goma, ici, vous avez été accueilli par la famille du personnel des Nations Unies, en particulier le personnel de la MONUSCO, qui est d'ailleurs heureux de votre visite après près de 6 mois vivant dans cette zone coupée de la capitale de la RDC. Y a-t-il un message particulier pour leur compte?
Alors, très clairement pour nous, la délégation qui est venue avec moi, parce que je ne suis pas venue seule, c'était très émotionnel de rencontrer physiquement ce personnel, parce que nous savons que ça a été des moments extrêmement difficiles. Donc, dans le message clé, c'est d'apprécier la résilience, le courage et le professionnalisme de tout ce personnel pendant des jours et des jours, des semaines, des mois, puisque nous sommes quasiment au 6e mois maintenant, et de leur dire combien nous admirons tout ce qu'ils ont enduré au plan personnel, mais aussi au plan de leur famille.
Peut-être une dernière question. Vous êtes à la fin de cette visite. Quel est le sentiment général?
Alors, un sentiment extrêmement fort et très, encore une fois, empreint d'émotion. Parce que lorsque l'hélicoptère qui a atterri donc à Lava Site à Goma, j'entendais beaucoup de sentiments, quelque part de soulagement, de voir qu'un hélicoptère atterrissait à Goma depuis plusieurs mois et pas n'importe quel hélicoptère, un hélicoptère des Nations Unies avec ce logo que beaucoup de gens connaissent, UN. Et ça tellement suscité des émotions très fortes que j'ai vu même moi-même, à certains moments, je pense que nous aurions pu verser des larmes les uns les autres. J'ai senti que même dans la population, ça a soulevé beaucoup d'espoir. Et donc pour moi, c'est vraiment, véritablement, toutes les initiatives de paix qui sont en cours puissent aboutir, donner des résultats concrets, et notamment pour nous, la mise en œuvre de cette résolution 2773 du 21 février dernier, pour que la paix puisse enfin être palpable et que la population puisse ressentir les bienfaits de toutes ces discussions qui sont en cours maintenant.
Madame la représentante spéciale, chef de la MONUSCO, merci.
Voilà, c'était la Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Elle répondait aux questions de Bernardin Nyangui. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Alain Romouchinj, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.